Alors, vous allez pouvoir évidemment poser vos questions si vous le souhaitez. Vous levez la main comme d'habitude. On va récupérer le deuxième micro aussi, je pense. Ce sera plus facile. Professeur, juste une chose, si j'ai bien compris, donc le délai entre le moment où se déclenche éventuellement la maladie et le moment où on détecte, c'est 1 an, 2 ans, c'est long par rapport aux autres pays, mais je crois comprendre aussi que, en fait, ce sont les patients eux-mêmes qui viennent auprès d'un professionnel notamment, pour qu'on reconnaisse qu'ils sont en difficulté. L'entourage ne prévient pas, ne se rend compte de rien, ne peut pas apporter justement sa pierre à l'édifice de détection.
Alors, l'entourage a un rôle absolument essentiel. Hein. C'est souvent les parents qui encouragent et peuvent accompagner, en tout cas c'est eux qui entendent les plaintes. Il y a vraiment deux délais. Il y a le délai des signes subtils atténués. C'est déjà compliqué de faire des diagnostics, surtout chez des jeunes qui ne savent pas toujours reconnaître leurs propres émotions et leurs propres symptômes. Donc c'est des choses qui sont compliquées à reconnaître. Mais si tant est qu'ils reconnaissent quelque chose, la réaction c'est je ne vais quand même pas aller voir un psychiatre, ou même certains d'ailleurs professionnels de santé vont dire il ne faut pas psychiatriser trop vite, bonjour le terme. Et puis enfin, d'autres vont dire ah oui mais ce n'est pas si grave, il n'y a pas besoin d'un psychiatre. Je pense qu'il faut inverser la machine, c'est-à-dire que ces jeunes-là puissent avoir une vraie évaluation et puis qu'on puisse du coup doser le type d'intervention. Vous avez compris que l'intervention chez ceux qui ont juste quelques symptômes atténués, encore une fois, ils sont déjà en souffrance, c'est principalement pas médicamenteux, c'est principalement de l'accompagnement, de la gestion du stress, enfin toutes les choses sur lesquelles on peut agir sans stigmatiser. Après, le délai que vous mentionnez de 1 à 2 ans, c'est un délai où là, on se demande bien pourquoi personne n'intervient. Parce que là, c'est premier épisode psychotique, tableau qui est classique et qui devrait être reconnu. Alors, la principale difficulté, c'est que quand on arrive à ce niveau-là, chez une partie des patients, pas tous les patients, il y a une sorte de déni et de non-reconnaissance des troubles. Si on a laissé qu'ils sont un peu marginalisés, ben ceux-là, ils vont mettre encore plus de temps à arriver à des soins parce qu'ils sont dans la rue, etc., etc. Le problème, il est vraiment complexe. La question que nous devons nous poser en tant que professionnels de santé, c'est comment je fais pour déstigmatiser que les gens arrivent plus tôt, mais aussi comment je fais pour améliorer le parcours et la trajectoire de soins de gens qui vont frapper à la porte des urgences, sont repérés comme suicidaires, ont un petit carton en disant « vous allez au CMP lundi à telle heure », ce qui est déjà bien, mais les patients qui sont dans cet état-là n'y vont pas toujours, en tout cas ceux qui sont le plus désorganisés ou qui ont des petits troubles de mémoire ne vont pas y aller parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils ont oublié, parce qu'ils ne savent pas prendre leur téléphone pour confirmer le rendez-vous. Donc il y a un vrai problème sur la coordination. Un point sur lequel on ne peut pas ne pas être, et là pour le coup il y a des économies à faire, c'est qu'effectivement c'est comment on évite que les patients tombent dans des zones où ils ne sont pas soignés et avec des conséquences dramatiques pour eux. Donc c'est cette période entre le 1 à 2 ans, c'est tous les symptômes sont là pour faire un diagnostic, cette fois-ci le premier épisode, le tableau est clair et net. Pourquoi on n'arrive pas à mieux organiser les soins pour qu'ils soient soignés correctement dès le départ? C'est vraiment un retard d'accès de soins.
Et comment on y arrive mieux ailleurs, alors?
Alors, le tableau n'est pas rose, aussi rose qu'on voudrait nous le faire.
Ils étaient jaunes, les autres pays, là, en l'occurrence.
Mais non, c'est pas si simple. Comment on y arrive mieux? Eh bien, ce qui est proposé, c'est d'abord d'avoir justement ces équipes avec ce qu'on appelle le case manager, c'est-à-dire la personne référente qui va accompagner le jeune, qui va l'aider sur telle ou telle démarche, qui va, s'il n'a plus trop envie d'aller jusqu'au médecin, l'encourager, trouver les arguments pour, etc., etc. Ça, c'est un point majeur qui facilite les choses. C'est avec un ratio qui est, pour les cas d'intervention très intense, c'est 1 pour 6 patients. Donc il y a vraiment un éducateur ou un infirmier qui est là à disposition et connecté en permanence. Ça, c'est un élément majeur pour des patients, et notamment pour des patients qui sont déjà arrivés jusqu'aux soins. Et en amont, c'est comment on maille les choses pour que quelqu'un dans un lycée sache où aller frapper, qui appeler pour demander de l'aide pour l'orientation. Et ça, on peut imaginer des systèmes de screening, on peut imaginer des systèmes d'appels téléphoniques comme Philharmonie. Enfin, il y a des systèmes qui ne sont pas forcément des systèmes extrêmement coûteux à mettre en place. Globalement, il va falloir quand même. Ces deux points sont essentiels, mais il y a aussi cette question de quelle est la vision que nous avons, nous soignants ou impliqués dans les soins, sur la maladie qu'on appelle schizophrénie, et d'accepter que cette maladie, lorsqu'elle est prise à temps, n'est pas le tableau qu'on voit d'habitude.
Est-ce qu'il y a un travail fait avec l'éducation nationale, je sais pas, les lycées, ouais, l'université aussi?
Oui, alors c'est beaucoup il y a du travail au niveau local qui est fait dans plein de régions, et faut le mentionner, parce que parfois il y a des dispositifs qui sont très très actifs et très bien organisés, mais pas forcément diffusés à d'autres régions. Donc oui, il y a du travail qui se fait, et dans ces programmes-là, effectivement, il ne faut pas oublier cette carte-là avec l'école, avec l'université, mais tous les jeunes sont, enfin beaucoup de jeunes sont sortis du système avant d'arriver jusqu'aux soins. Nous, nos chiffres, c'est ça. Ils ont en général commencé à redoubler à 14 ans. Ils ont commencé à aller moins bien à 13-14 ans, et ils redoublent un an après. Donc il y a le système scolaire, il n'est pas fait pour soigner, mais il pourrait repérer et on pourrait l'aider à mieux orienter. Il y a une vraie demande. La Fondation Nénicaire a un programme qui s'appelle Hashtag PsyJeune, qui effectivement sont des conférences qui sont en train de se mettre en place au niveau plutôt régional aujourd'hui, mais avec une diffusion en région. Mais je sais qu'il y a aussi d'autres activités comme ça. Ouais.
Bon, excusez-moi. Allons-y.
Oui, Philippe Guinard, ARS Île-de-France. Deux questions. J'ai sélectionné. La première, c'est la conduite tenue pour les jeunes qui sont évalués non à risque, enfin, ou à risque faible. Et la deuxième question, c'est quelles conséquences a votre approche sur les questions d'organisation de l'hospitalisation?
Alors, première réponse, les sujets qui ne sont pas considérés comme à risque mental d'une transition psychotique, ça c'est un choix de la structure. Soit on décide d'avoir une structure extrêmement ouverte et on a les moyens pour, et on a des équipes qui vont s'occuper de ceux qui sont plutôt troubles de l'humeur, de ceux qui sont plutôt troubles anxieux. C'est ce que fait Magori dans sa PACE clinique. Il y a trois équipes différentes, une qui s'occupe des troubles anxieux, une qui s'occupe de la dépression, une des troubles de l'humeur, et une qui s'occupe de la psychose. Une fois qu'ils sont screenés, avec une mise en commun de moyens à certains niveaux, il faut avoir les moyens pour ça, et c'est, pour l'instant c'est un peu compliqué. En tout cas, nous, ce qu'on cherche à mettre en place, c'est plutôt déjà se concentrer sur ceux qui ont autour de la psychose, donc ceux qui ont des risques psychotiques et non psychotiques, et donc les autres sont réorientés dans des structures. À Paris, on est dans une situation particulière parce qu'il y a effectivement un bon nombre de structures qui sont parfaitement compétentes et habilitées pour prendre en charge les autres patients. Ils sont généralement réadressés, ils sont de toute façon toujours les bienvenus s'il y a un souci, mais ils sont plutôt réadressés en libéral ou dans d'autres cliniques ou autres. Et quant à l'hospitalisation, globalement, toute cette affaire-là, elle est faite pour limiter l'hospitalisation. Donc l'hospitalisation, elle doit pouvoir être proposée facilement et sans rupture en cas de crise. Donc, parce que effectivement, le premier épisode, il peut être assez bruyant, et il ne faut pas que ce soit du coup dans une équipe qui serait différente, et en même temps, et éventuellement aussi pour faciliter des bilans, par exemple, parce que quand il y a des bilans un peu plus compliqués à réaliser. Mais l'hospitalisation, elle doit être relativement limitée. C'est essentiellement des prises en charge dans le milieu. Après ça, s'il y a vraiment, si la maladie effectivement évolue et nécessite des hospitalisations récurrentes, on sort un peu de ce chapitre-là. Et là, c'est pour ça qu'on ne peut pas imaginer ces dispositifs-là sans penser une coordination avec les structures qui sont là et qui savent, qui sont tout à fait adaptées à des prises en charge sur le plus long terme. Il ne s'agit pas de disqualifier le travail qui est fait dans les CMP, dans les secteurs. Et globalement, la durée de prise en charge dans des dispositifs, c'est environ recommandé, c'est environ 2 ou 3 ans, si tout se passe bien.
D'autres questions? S'il vous plaît, le micro devant, ici. Docteur Schmitt.
Non, c'est vrai que j'ai été très intéressé, puisque en tant que psychiatre de l'adolescent, je suis forcément très confronté à ce... c'est un peu le quotidien. Ces questions-là, vous parliez de construire un dispositif à une dimension territoriale suffisante, donc forcément suprasectorielle. On en a parlé aussi hier, finalement, aussi du risque de surspécialisation. Donc c'est toujours la difficulté quand on construit ce type de dispositif, c'est comment les articuler avec les CMP de proximité. Quel dimensionnement, comme ça, en vous écoutant, je me disais oui, finalement, sur la ville de Metz, enfin l'agglomération messine qui fait 300 000 habitants, peut-être en rajoutant Thionville, là, on est sur un bassin de population de 600 000 habitants, ça pourrait être assez pertinent. Mais après, c'est vrai que ça suppose de pouvoir redistribuer. Enfin, quand on est vraiment dans le dépistage d'une schizophrénie là, qui débute, de pouvoir redistribuer de façon efficace sur le secteur, et peut-être du coup d'avoir un peu finalement des dispositifs où de temps partagé, c'est-à-dire d'avoir des collègues qui donnent un peu de temps dans ce dispositif-là, et puis par ailleurs travaillent dans l'hôpital ou dans un CMP, enfin voilà, qu'en pensez-vous ?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il faut penser ces dispositifs-là avec des articulations dès le départ. Et c'est à nous à trouver la bonne solution. Donc, on commence à jouer à ça. Non, pas à jouer, mais à réfléchir à ça. Et on voit bien comment les équipes qui commencent à essayer de monter des systèmes essayent de fonctionner. Ça dépend complètement de ce qu'il y a autour d'elles. Dans certains cas, il y a des maisons des adolescents. Et dans certains cas, les maisons des adolescents ont même des médecins, voire même des psychiatres. Et il peut y avoir un travail qui est fait, et certaines maisons des adolescents travaillent très proche avec un dispositif qui est en train de se spécialiser sur la prise en charge. C'est l'étape d'après lorsque le tableau semble évoluer vers ou pouvoir évoluer vers une psychose. Donc c'est un type d'organisation. Dans d'autres cas, il y a soit pas de maison des adolescents, soit une maison des adolescents qui est absolument sous-dotée et qui est beaucoup plus tournée sur des choses beaucoup plus précoces. Globalement, dans le dispositif, les maisons des adolescents, d'abord, c'est pas tout à fait la même tranche d'âge, et puis c'est pas tout à fait non plus le même niveau de symptômes. C'est des symptômes, c'est plus tôt, quoi, d'une certaine manière. Mais il y a cette articulation à... le maître mot, probablement, c'est de pouvoir... faire bénéficier aux jeunes, dès qu'il y a quelque chose d'un peu sévère dans le dysfonctionnement, de pouvoir les faire bénéficier d'une évaluation qui soit correcte et qui permette réellement d'estimer au mieux qu'on peut le faire le risque d'évolution vers une pathologie chronique. C'est pas surdéterminé, c'est-à-dire que les patients qu'on voit, aujourd'hui, on n'a pas de critères qui permettent de reconnaître à tous les coups quelqu'un qui va évoluer vers la schizophrénie. On commence à avoir des critères qui permettent de prédire de façon assez satisfaisante le risque vers la psychose. Bon, c'est pas encore adapté à la clinique aujourd'hui parce que pas suffisamment renforcé, pas suffisamment démontré, mais probablement ça, on n'est pas si loin que ça. Déterminer d'emblée qui va évoluer vers une vraie schizophrénie chronique, c'est pas complètement sûr, et surtout on va faire tout ce qu'on peut pour éviter que ce le soit. Donc espèce de chose un peu tautologique. Sur le bassin de population, ça c'est une question que moi j'ai posée de façon récurrente à ceux qui ont monté ça au niveau international. La recommandation habituelle, c'est pour un programme premier épisode, c'est 300 000 à 500 000 habitants, et pour un dispositif early intervention pour les ultra haut risque, c'est un peu au-delà. Non pas parce qu'il y en a moins, au contraire il devrait y en avoir plus, mais parce que finalement de toute façon il y a toujours cette question d'accès aux soins. Donc, ce serait la bonne taille. Pour un dispositif. À Paris, c'est compliqué parce que le 15e arrondissement, c'est 240 000 habitants. Donc, voilà. donc, je pense que moi, mon opinion aujourd'hui, après avoir discuté avec les collègues, etc., je pense qu'il y a vraiment besoin de faire un diagnostic territorial, c'est-à-dire savoir comment ça fonctionne, parce qu'on va. Il ne s'agit pas de dire que personne ne sait rien faire. La question, c'est comment on maille pour que ça marche mieux et que le parcours soit moins discontinu pour ces jeunes. Et on voit bien qu'il y a des choses qui fonctionnent, le même nom, mais qui fonctionnent très différemment. Enfin, il y a une grosse hétérogénéité. Et ça, il faut regarder, à mon avis, de près. Et il faudrait faire ce travail-là. Je pense que moi, j'incite les gens qui s'y intéressent à commencer à faire ce travail-là.
Bien. Y a-t-il encore oui, une question ?
Merci beaucoup. Daniel Sechter, Besançon. Pas loin de la Suisse, où il existe des centres d'intervention précoce.
Absolument.
Merci beaucoup à Madame Krebs de nous avoir présenté avec nuance la nécessité d'intervenir précocement. Et c'est vrai que Madame Finkelstein, avec la FNAPSI, a mis en place aussi une association, ASAP, pour intervenir as soon as possible. ASAP, as soon as possible. Et alors, en effet, tu as bien souligné le fait qu'il y avait les représentations qu'on avait au niveau des représentations de ce qu'il y a derrière le terme de schizophrénie et les représentations de ce que représente la psychiatrie, discipline qui est encore à côté. Alors, ce matin, je faisais une double gymnastique, une première gymnastique en me disant psychiatre généraliste à travers les différents âges de la vie, à savoir intervenir le plus précocement possible pour les troubles du spectre autistique, comme chez l'adolescent et le jeune adulte, il faut intervenir le plus précocement possible pour les troubles du spectre psychotique. Et la deuxième gymnastique, c'est de me dire, je suis spécialiste en psychiatrie, mais je suis d'abord médecin, et la psychiatrie est une discipline médicale, et tu as bien évoqué le fait qu'on avait la même attitude pour des maladies métaboliques comme le diabète. Est-ce qu'en effet, ce n'est pas essentiel qu'on arrive petit à petit à réintégrer la psychiatrie par rapport à cette image ?
Complètement. Je pense qu'on va se heurter à, dans notre manière de réfléchir l'organisation des soins, on va se heurter à des réelles difficultés si on n'essaye pas vraiment d'intégrer la notion. D'intégrer la notion. Pardon, je finis ma phrase. D'intégrer la notion que certains patients peuvent être dans un état presque au premier épisode, ou même déjà dans un premier épisode, avec une récupération qui fait que vous les croisez 5 ans après, vous n'êtes pas au courant qu'ils ont eu cet épisode-là. On en a tous connu, si on veut bien. Généralement, on les connaît chez des proches, de gens chez des apparentés de gens qu'on connaît par ailleurs, parce qu'ils ne viennent plus voir les psychiatres, curieusement, quand ils vont bien. Donc on a une surreprésentation, nous, psychiatres et soignants, des gens qui ne vont pas bien. On ne voit finalement que les cancers terminaux, pour reprendre ou le diabète compliqué. Et ça, il va vraiment falloir se départir un peu de cette image-là, parce que les arguments sont là pour dire certains patients qui ont fait un premier épisode peuvent récupérer, y compris lorsqu'il y a des indices de, y compris des antécédents familiaux, etc., etc. Et bon, moi j'ai eu la chance de voir un ou deux patients comme ça. C'est absolument pas la même qualité d'ailleurs d'interaction avec les jeunes. Ils parlent de leur maladie très différemment. Ils ont repris leurs études, etc. Bon. Je suis pas responsable d'un service 80 lits d'hospitalisation avec des formes ultra résistantes, donc je sais très bien ce que c'est et ce que ça peut devenir. Donc je suis pas en train de faire le pays des bisounours, comme c'est parfois le cas chez certaines présentations. Mais réellement, aujourd'hui, les critères sont là, scientifiques et médicaux, pour dire si on intervient plus tôt, on va limiter la casse. Et ça, c'est vraiment quelque chose à intégrer. Et je dirais même, une des raisons pour lesquelles il faut que ce soit spécialisé, ces équipes-là, quitte à ce que ce soit avec du personnel partagé, évidemment, mais il faut qu'il y ait vraiment quelque chose d'identifié, spécialisé, parce que sinon, c'est extrêmement compliqué d'aller défendre, oui, il a déjà des symptômes psychotiques, mais je ne vais pas mettre d'antipsychotique, alors qu'à côté, on est en train de parler de 20 cas qui ont mal évolué, et pour lesquels, évidemment, nous nous sommes tous dit, mais pourquoi on n'a pas traité plus tôt, alors qu'il avait déjà des symptômes. Donc il y a un vrai paradoxe, un vrai conflit qui est difficile à résoudre, mais on ne le résolvera que si on commence par accepter cette image-là, c'est-à-dire que, effectivement, ben, de la même, si on reprend le diabète, si on fait un régime comme il faut, on évite le diabète. Voilà. On reste à risque, mais on évite le diabète. Et ça, c'est une vraie notion nouvelle.
Merci, professeur Krebs. Ah, dernière question, alors. Rapidement, s'il vous plaît.
Quel partenariat vous avez mis en place, si vous en avez mis un, avec la médecine de ville, et est-ce que vous avez fait justement comme les Suisses, c'est-à-dire mis à disposition des médecins généralistes des outils d'évaluation diagnostique et d'orientation ?
Alors, pour l'instant, le travail qui est fait... je vais prendre un mot d'historique. Notre structure, elle s'est vraiment ouverte comme une structure universitaire. Donc, dans un premier temps, on a vraiment travaillé comme des universitaires, même si le service est aussi sectorisé. Et par ailleurs, en parallèle, on a tout un travail qui a été fait par l'équipe de secteur avec les généralistes du secteur, en tout cas avec les généralistes qui sont intéressés à travailler avec les psychiatres, ce qui n'est pas, malheureusement pas l'ensemble des généralistes. Très clairement, la proposition que vous faites est certainement une très bonne proposition, c'est-à-dire qu'il faudrait faciliter, on est en train de mettre en place un questionnaire qui serait possible de mettre à disposition pour des généralistes ou pour des médecins scolaires, etc., etc., où il y ait un espèce de screen. On voit que les jeunes y répondent aux questions et ça permettrait de faciliter un petit peu d'argumenter un petit peu l'orientation qu'on va proposer. En réalité, le questionnaire qu'on est en train de faire, effectivement, on fait la validation avec l'équipe de Philippe Conus à Lausanne. Mais pour l'instant, je vais faire une autocritique, on n'a pas complètement construit quelque chose, mais c'est quelque chose qu'on a en tête et qui est en cours, en fait.
Et les outils smartphones également ?
Alors, les outils smartphones, absolument, dès qu'on a un financement pour. Il y avait un truc, il y avait un projet psychiatre, il y a une grosse partie avec une application qui soit à la fois, qui permette à la fois aux jeunes de signaler quand ils vont pas bien, diffuser de l'information entre professionnels et avoir quelques guides de quoi faire s'ils vont pas bien, où aller voir, etc. Mais ça, voilà. Oui, c'est certainement une bonne manière, pas si coûteuse que ça, et surtout facilement transposable sur l'ensemble du territoire, y compris dans les déserts médicaux. On ne va pas rassembler 300 000 habitants à un délai raisonnable de transport.
Avant de conclure, quelques mots de notre président de séance, Jacques Maresco.
Oui, juste, c'est pas tellement une conclusion, mais une incitation. Je note que dans votre intervention, on a certainement, vous décelez un besoin, comme ça a été répété depuis trois demi-journées, de formation et d'information des généralistes, des éducateurs, des familles. Donc je crois que ça, il va falloir s'y attaquer. Et puis l'Australie, qui semble être depuis hier un peu l'horizon futur de la psychiatrie, c'est aussi le pays qui a mis en place le premier, il y a une vingtaine d'années, les premiers secours, ce qu'on appelle nous les premiers secours en santé mentale, first aid, etc. Et ils ont formé 500 000 personnes. Peut-être ça aiderait si on le mettait en place en France. La deuxième chose, c'est que notre organisation de soins, tout de même, elle n'est pas très adaptée et que ça va nécessiter, notamment entre la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et la psychiatrie adulte, véritablement qui est partout, et pas seulement à certains endroits, un travail qui se fasse sur les liaisons. Et puis vous avez évoqué le territoire, un territoire de 500 000 personnes. Bon, il y a eu cet été un décret qui a été publié sur les projets territoriaux de santé mentale. On peut penser que beaucoup de territoires seront à peu près de cette taille-là. Donc c'est peut-être une recommandation à la salle de dire, dans vos territoires, il faut peut-être que vous réfléchissiez à la mise en place de ce type, de ce type d'équipe.
Je crois, alors c'est vrai que 300 000...
En mutualisant, parce que je pense qu'il ne faut pas détacher complètement du fonctionnement des établissements.
Je suis tout à fait d'accord. Sur la formation, je me suis permise de mettre le fait qu'on a un DU qui est maintenant assez actif. Vous pouvez nous contacter pour ça. Il y a aussi des journées internationales du réseau Transition qui sont des rencontres de professionnels. Et on a dans les... Pareil, si on a le financement, l'idée de faire des MOOC pour les professionnels de première ligne, généralistes, médecins scolaires, etc., etc. C'est absolument essentiel. Et quant au territoire, ce n'est pas un chiffre absolu. Quand on regarde, il y a bien sûr le modèle australien, il y a d'autres modèles qui sont proposés intéressants, notamment en Italie, où ils ont beaucoup travaillé sur l'implication de l'équivalent des secteurs. Alors, ce n'est pas juste une journée de formation comme ça. C'est un programme intensif où, dans les secteurs, ils vont former une ou deux personnes, plus particulièrement, avec un vrai, non seulement formation à la base, mais après ça, un coaching, etc. Et ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait être réfléchi et une manière de résoudre dans le cas où la population est trop étendue, par exemple.
Le programme que j'ai évoqué, c'est un programme grand public. Hein, ce n'est pas un programme destiné aux professionnels. Oui.
Bien, merci en tout cas de vos contributions l'un et à l'autre. On va pouvoir vous applaudir, professeur, et inviter...